Chapitre 15. Fleurs et lauriers. De Pistoia, nous pouvions aller en un jour à Florence, mais on nous fit faire un petit détour et même deux. Enfin, le 27 mai, nous fîmes notre entrée triomphale dans la capitale de la Toscane, que le grand-duc avait quittée depuis quelques jours avec sa garde autrichienne. Il est inutile de dire que là, comme à Livourne, à Pise et à Pistoia, les ovations, les transports d'enthousiasme éclataient sur notre passage. Nous allâmes camper dans les jardins et les parcs du palais grand-ducal. Le 14e chasseur à pied et le 18e de ligne arrivèrent le même jour, venant par d'autres routes. Toute la première brigade se trouvait alors réunie à Florence. La 2e brigade, 80e et 82e, devait rester à Pistoia. Le lendemain, je me trouvais de planton chez le général qui était installé dans un palais sur la grande place. Là, j'ai pu assister à une scène plus délirante encore, si c'est possible. Le prince Jérôme, venu de Livourne par le train, faisait son entrée triomphale dans la cité florentine, monté sur un beau cheval blanc, semblable à celui de son oncle. Les maisons bordant les rues par où il devait passer étaient décorées des plus riches tapis et de trophées aux armes de France et d'Italie. Tous les balcons étaient chargés de lauriers, de bouquets et de couronnes. Des jeunes filles tenaient à la main de grandes corbeilles de fleurs effeuillées. J'étais bien placé pour voir cette scène féerique. Je me trouvais à une croisée qui faisait face à la rue, où le prince devait déboucher sur la place. Mais ici ma plume est impuissante à décrire ce que mes yeux ont vu ou ont cru voir, car l'éblouissement de la scène et les larmes qui me coulaient des yeux me faisaient peut-être voir double, voir des choses qui, en réalité, n'existaient pas. Quoi qu'il en soit, depuis l'instant où le prince parut au bout de la rue, je ne le revis plus jusqu'à ce qu'il fût arrivé sur la place, car tout le long de la rue, lui et son cheval furent complètement inondés sous un déluge de fleurs, de bouquets et de couronnes. Il marchait lentement. Son cheval était comme figé dans une mer de jeunes filles, ou plutôt d'anges et de chérubins. Quand il apparut enfin sur la place, quatre ou cinq jeunes filles se cramponnaient contre la tête du cheval, deux ou trois autres de chaque côté s'accrochaient aux étriers et aux bottes du prince. Quand elles les avaient tenues un moment, d'autres prenaient leur place. Plusieurs avaient leur crinoline à traîne déchirée par les pieds du cheval, mais elles ne s'en souciaient guère. Je fus détourné de ce spectacle délirant par le secrétaire du général qui vint me donner une dépêche pour mon colonel. Je fus presque content de m'en aller, car ce spectacle me faisait réellement souffrir, souffrir de joie et de bonheur. J'avais le devant de ma capote tout mouillé par les larmes qui, malgré moi, ne cessaient de couler en torrent continu de mes yeux. Nous devions rester en Toscane, en attendant que les événements de la guerre se dessinassent dans les plaines de la Lombardie. Nous allions faire des reconnaissances, quelquefois très loin de Florence, mais d'ennemis on n'en voyait pas. Je me demandais souvent ce que nous faisions là. J'avais bien lu un discours du prince Napoléon, affiché sur les murs de la ville et adressé au peuple toscan, dans lequel il disait qu'il n'était en Toscane que pour protéger le duché contre une invasion probable des Autrichiens, qu'il n'avait pas à s'occuper des questions politiques ni à s'immiscer dans les affaires administratives. Les opérations militaires jusque-là n'avaient consisté pour nous qu'à marcher sur des fleurs et à passer sous des arcs de triomphe, l'arme sur l'épaule droite. Ce qui me chagrinait, c'est que je ne savais pas au juste où nous nous trouvions, à quelle distance nous étions des armées alliées, mes connaissances géographiques étant insuffisantes. Un jour, me promenant dans la ville et regardant les beaux monuments, j'aperçus un vieux libraire assis devant sa porte et lisant un journal. J'entre chez lui et je lui demande s'il n'avait pas de carte du théâtre de la guerre. « Si, me dit-il, j'en ai une quantité. » Je demande le prix. C'est 1,50 franc, mais pour les soldats français, je les donne pour rien. Puis il me demande si je n'avais pas soif. Je fis une petite grimace qui voulait dire « si ». « Passons de l'autre côté », me dit-il. Il fit apporter un fiasco di vino vecchio et deux grands verres. Et quand nous eûmes bu notre premier verre, il me dit « Mais on dirait que vous êtes un Toscan en vous entendant parler notre langue. » « Non, monsieur, j'en suis loin, je suis breton. » Et où avez-vous appris à parler si bien l'italien? Voici, monsieur, mon professeur, que je tiens à peu près depuis 3 semaines, en lui montrant ma petite grammaire que j'avais dans ma poche. Ce serait étonnant, si je parlais bien l'italien, que je ne parle que depuis quelques jours. Il y a 5 ans que je cherche à apprendre le français, et je ne le sais pas encore. Il est même probable que je ne le saurai jamais. Le français, je ne sais pas comment vous le parlez, mais pour sûr, vous parlez fort bien l'italien. Compliments et éloges à part, puisque nous nous comprenons, je désirerais savoir comment et pourquoi nous sommes ici. Oh, c'est bien simple, dit-il. Si vous n'étiez pas ici en ce moment, les Autrichiens y seraient, et ils auraient pillé, dévalisé et ravagé toute notre belle et riche province. Le grand-duc est parti d'ici avec ses Autrichiens, dans l'intention d'y revenir avec une grande armée, de concert avec son confrère de Modène. Mais lorsqu'il a appris qu'une armée française allait débarquer à Livourne, il s'est tenu quoi? Nous avons bien nos jeunes volontaires, commandés par le général Ulloa, qui gardent les principaux passages par où l'ennemi devait envahir le pays. Mais ces jeunes gens, quoique pleins d'élan patriotique et brûlants d'amour pour l'indépendance et la liberté, n'auraient pas pu arrêter ces barbares et cruels tudesques. Il déploya une carte, puis continua. Je crois que vous resterez par ici jusqu'aux événements qui doivent se produire sur les bords du Tessin. Il s'est livré déjà 2 petits engagements, un à Montebello et l'autre à Palestro. En ce moment, les 3 armées sont en présence sur les 2 rives du Tessin. C'est là que va se décider bientôt le sort de l'Italie. Si les Autrichiens sont battus, ce dont je suis presque certain, ils seront obligés d'évacuer Milan et de se retirer sur l'Adda ou sur le Mincio. Et alors, nous n'aurons plus rien à craindre ici, car l'armée de Mantoue, que nous craignons, aura assez à faire sur la rive gauche du Pô et ne cherchera pas à passer sur la rive droite. Alors vous serez probablement appelé à passer les Apennins pour vous joindre aux armées alliées de l'autre côté du Pô. Ceci se passait le 3 juin. Le lendemain au soir, après 10 heures, lorsque nous étions tous couchés sous nos tentes, j'entendis un bruit épouvantable du côté de la ville. J'allais m'endormir, mais à ce bruit je sors de la tente, les yeux à moitié fermés. En regardant du côté de la ville, je crus qu'elle était tout en feu. Je voyais partout de grandes lueurs multicolores. J'attrape ma capote et je file au pas de course vers ce que je prenais pour un incendie, sans m'occuper si le camp était consigné ou non. En arrivant sur la place, je fus saisi à plein corps par un individu qui me souleva de terre en m'embrassant et criant avec des larmes dans les yeux et dans la voix « Vive la Francia! Vive i soldati francesi !» Un autre en fit autant, puis un troisième. Je pensais être étouffé. J'avais beau demander ce qu'il y avait, on ne me répondait que par une criaille de viva. Des bandes parcouraient la ville avec des torches et d'énormes flambeaux, accompagnant les musiques qui jouaient et chantaient toutes à la fois la Marseillaise française et italienne. Toutes les maisons étaient illuminées. Ne pouvant savoir la cause de cette scène nocturne, je cours voir si mon libraire était aussi debout. Oh oui, certes, il était debout, et bien occupé. La maison était pleine de monde, demandant des cartes du théâtre de la guerre. Là, j'allais encore être l'objet des mêmes transports que sur la place, si le libraire qui m'aperçut ne m'eût fait signe de passer vivement de l'autre côté. Quand il fut débarrassé de ses clients, il vint à moi les 2 bras tendus et, après m'avoir donné l'accolade fraternelle et patriotique, il me dit « Eh bien, mon ami, ne suis-je pas bon stratégiste et bon prophète ? Les Autrichiens sont battus, complètement battus, à Magenta. Leur armée est en déroute. J'ai reçu la première dépêche à 10 heures, car il faut vous dire, mon ami, que je suis un des principaux membres de la commission municipale de Florence, nommé depuis le départ du grand-duc. L'Italie est sauvée, et c'est à vous, Français, qu'elle devra son salut. » Il envoya sa bonne chercher dans sa cave 2 bouteilles du vin le plus vieux. Quelques amis vinrent aussi le voir, ivres de joie et de transport, mais je fus obligé de le quitter, car la nuit s'avançait. Le lendemain, des Te Deum furent chantés dans toutes les églises. Le prince Jérôme, les généraux et toutes les troupes y assistaient. Nous devions quitter la Toscane de suite après la première défaite des Autrichiens, mais on attendait l'organisation complète du corps de volontaires du général Ulloa, qui devait nous suivre au-delà des Apennins. En attendant, nous faisions toujours des marches ou des reconnaissances dans les montagnes, et moi, quand j'avais le temps, j'allais causer dans ma nouvelle langue avec le vieux libraire qui m'avait pris en affection. Maintenant, me disait-il, je n'ai plus qu'une inquiétude et un chagrin, car pour moi l'Autriche est perdue. Mais c'est le pape qui va encore, comme toujours, mettre obstacle à l'indépendance italienne. Votre magnanime empereur a bien promis de faire l'Italie libre des Alpes à l'Adriatique. Mais il ne le peut pas sans renverser le pape, et jamais Napoléon III ne renversera son ami et son compère. Il y a là un véritable malheur pour l'Italie. Ah, si cet homme n'eût pas été l'ami de Napoléon, ce n'est pas dans les Alpes que Garibaldi serait allé combattre avec ses volontaires, qui sont justement presque tous de Rome. Non, il serait probablement à Rome, mettant encore une fois, comme en 1848, le vieux Mastaille en fuite. Je ne pouvais rien reprendre à cela, ne connaissant pas alors le vieux Mastaille ni la question romaine. Cependant, le 11 juin, on nous prévint de nous tenir prêts à partir le lendemain, de ne pas nous charger de choses inutiles, car la route serait longue et pénible. Elle fut pénible, en effet. Nous étions obligés de faire 14 à 15 lieues par jour sur des routes poussiéreuses et sous un soleil brûlant. Nous devions passer par Massa, Pontremoli, Parme et Casal Maggiore. Tous les jours, disait-on, le prince recevait des dépêches de l'empereur qui lui prescrivait de presser sa jonction avec les armées alliées. Notre marche n'avait plus l'air d'être la marche d'une armée allant à la victoire. Elle avait plutôt l'air d'une déroute. Tous les jours, on voyait des multitudes de traînards joncher les bords de la route. Les sous-officiers, les officiers d'arrière-garde et les gendarmes avaient beau essayer de les faire marcher tantôt par la douceur, tantôt par les menaces, rien n'y faisait. Ces hommes n'en pouvaient plus. Ils arrivaient plus tard dans la nuit, sur des prolonges de trains, des voitures d'ambulance et des chariots de paysans. Dans cette marche effroyable, j'avais bien remarqué la supériorité des petits hommes sur les grands. Dans notre compagnie de petits voltigeurs, il ne restait presque jamais personne en arrière. Dans mon escouade, qui comprenait tous les plus petits, jamais un seul n'a manqué à l'appel. Tous les soirs, en arrivant au camp, après avoir mis sac à terre et tordu leur chemise pour en faire sortir 5 à 6 litres d'eau bue et transpirée dans la journée, ils disparaissaient tous, excepté moi, le cuisinier, et 2 autres pour monter les tentes. Quelque temps après, on les voyait arriver les uns après les autres et de différents côtés, l'un avec des légumes, un autre avec une poule ou un canard, un autre avec 2 ou 3 petits bidons de vin ou de l'aquavité. Le sergent-major, qui mangeait d'abord à la première escouade, avait bientôt demandé de venir à la 8e, voyant que nous avions quelque chose à la broche tous les jours, tandis qu'à la première escouade, ils n'avaient juste que ce que l'administration voulait bien leur donner. J'avais dans mon escouade 2 individus qui avaient servi aux zouaves. Lorsque le sergent-major demandait comment nous faisions pour trouver à fricoter là où les autres manquaient de tout, ceux-ci répondaient « C'est de la magie, chef ». Vous savez que le zouave est un vrai lion, brûlé par le soleil d'Afrique. Pour enfoncer un bataillon, il possède une baguette magique. Nous trouvions partout les mêmes fêtes et les mêmes ovations qu'en Toscane, mais on n'y faisait plus attention. Nous en étions rassasiés. On entendait maintenant dans les rangs des jurons tels que « Ah, vous nous sciez le dos !»« Assez, assez, apportez-nous à boire, ça vaudra mieux !» Si nous commencions à être blasés de ces fêtes continuelles, le prince devait l'être encore davantage. Celui-là n'avait de repos ni jour ni nuit. Non seulement ses oreilles devaient être brisées par les cris et les vivats incessants, mais sa pauvre tête devait être écorchée par les bouquets et les couronnes qui pleuvaient dessus à chaque pas. Cependant, le 23 juin, nous avions fini de franchir les Apennins, et le 24, nous marchions sur Fornovo, à une étape de Parme. Le 24 juin 1859 est un jour célèbre dans les fastes de la guerre. Toute la journée, nous avions entendu le canon gronder au loin sur notre gauche, et à chaque instant, on entendait dans les rangs « Ça chauffe là-bas ». Ça devait chauffer là-bas, certes, mais ici, ça chauffait aussi. Jamais depuis notre départ de Florence, nous n'eûmes une pareille journée. La chaleur était tellement brûlante, l'air tellement étouffant, que les hommes et les chevaux tombaient instantanément sur la route et mouraient en tombant. Dans la nuit, nous fûmes complètement inondés par un épouvantable orage venu du côté du champ de bataille et produit par le bruit du canon. Nous fûmes obligés de décamper et de passer la nuit debout ou accroupis dans l'eau. Le sucre, le sel et le café furent totalement perdus, et le lendemain, nous fûmes obligés de ramasser nos bagages pleins d'eau, ce qui augmenta d'autant le poids du sac. Le général Ulrich, qui nous avait parlé météorologie à Toulon, aurait bien dû nous expliquer comment et pourquoi, après toutes les grandes batailles, il se produit d'épouvantables orages. Le lendemain, nous entrâmes à Parme, comme nous étions entrés à Florence. La duchesse s'était aussi sauvée, nous laissant son palais, ses parcs et ses jardins dans lesquels nous allâmes camper. Les illuminations, les décors, les cris de la foule de plus en plus ivres de joie à mesure que les événements marchaient, les jeunes filles même ne nous attiraient plus. Nous en avions assez. À Parme, nous reçûmes du renfort. C'étaient des hommes qui venaient de France par la voie de Gênes et de Plaisance. Ces hommes étaient chez eux en congé renouvelable. Il y avait parmi eux beaucoup de caporaux et de sous-officiers dont les places étaient prises. On les plaça à la suite dans les compagnies en attendant les places vacantes. Cela ne fit pas plaisir aux caporaux qui s'attendaient à passer sergent. Nous restâmes 2 jours à Parme. Nous apprîmes là le résultat de la grande bataille qui avait eu lieu le 24 à Solferino et San Martino. Ça avait été une nouvelle défaite pour les Autrichiens, mais cette défaite avait coûté cher aux armées alliées. Le 28, nous arrivâmes sur le bord du Pô, en face de Casalmaggiore, à 7 lieues de Mantoue. Le général d'Ottemar, commandant la première division du 5e corps venu d'Afrique, et qui nous attendait depuis longtemps sur le Pô, avait été prévenu, par dépêche du prince Napoléon, de nous préparer des ponts pour passer le fleuve. Les difficultés étaient grandes. Le fleuve à cet endroit a plus de 900 mètres de largeur. Les matériaux manquaient et l'ennemi était prêt. N'importe, en guerre, il ne doit y avoir rien d'impossible. Avec des arbres, on construisit des têtes de pont, puis on réquisitionna ou loua des bateaux aux riverains pour former une espèce de pont volant. Le 29 juin, nous étions sur la rive gauche du Pô, tout le corps d'armée réuni. Nous touchions alors aux armées alliées, dont nous formions l'aile droite, sur le bord de l'Olio et à cheval sur la grande route de Crémone à Mantoue. Le 24 juin, l'armée autrichienne était venue jusqu'à l'Olio, dans l'intention de prendre l'armée française en flanc et par derrière. Mais quand elle apprit que le 5e corps marchait vers elle, elle fit demi-tour sans avoir essayé de rien prendre, sinon la fuite. La terreur que ce corps inspirait le dispensait de combattre. Le capitaine Lafouge, aide de camp du général Ottemar, était allé un jour avec un autre officier et 4 gendarmes parmesans faire une reconnaissance à Brezello, place forte fortifiée sur la rive droite du Pô, en face de Mantoue, et occupée par une garnison autrichienne. Le capitaine, ne voyant personne à l'entrée de la ville, crut que les Autrichiens étaient partis. Il entre en ville, suivi des 4 gendarmes, et se trouva en présence d'une 100aine d'hommes en armes et prêts à combattre. Mais aussitôt qu'ils aperçurent l'officier français, ils s'empressèrent de déposer les armes. On dit qu'à vaincre sans combat, on triomphe sans gloire. C'est possible, mais on triomphe avec beaucoup d'économies de sang et d'argent. Nos 4 premiers corps d'armée et l'armée sarde avaient bien conquis la Lombardie. Mais à quel prix ? Des torrents de sang versés, des milliers de morts et plus encore des milliers de mutilés que la patrie allait être obligée de nourrir. Des villes et des villages en ruines, les champs de blé et les vignes dévastés, les ponts, les chemins de fer, le télégraphe et tous les travaux d'art détruits. Les populations de la campagne ruinées. Nous autres du 5e corps, avec 15 000 hommes, nous avions conquis 3 riches provinces sans rien détruire, sinon les parterres et quelques futailles de vin. Le 3 juillet, nous allions nous établir à Goito. Dès notre arrivée, notre compagnie fut envoyée en reconnaissance sur la route de Mantoue, qui n'était qu'à 10 km. Notre lieutenant, qui commandait la compagnie en l'absence du capitaine, et qui était un Gascon, disait « Tonnerre de Dieu, nous allons prendre Mantoue tout à l'heure !» Nous l'aurions peut-être prise, ou du moins nous nous en serions approchés, si nous n'eussions trouvé en route un détachement d'Autrichiens. Aussitôt qu'ils nous aperçurent, ils détalèrent au pas de course. Nous prîmes aussi le pas de course en jetant des cris d'épouvante. Bientôt nous en trouvâmes une demi-douzaine sur le bord de la route avec leurs crosses en l'air. Ils étaient aussi blancs que la neige. Saisis de frayeur, ils nous tendirent leurs fusils et se mirent en rang au milieu de la compagnie, sans proférer une syllabe. Nous retournâmes au camp avec notre prise. En route, je demandai s'il y avait quelqu'un parmi eux qui sût l'italien. L'un me répondit d'une voix faible et presque tremblante, « Si, signor, io lo so. » Alors je lui dis qu'il n'avait pas besoin d'avoir peur, qu'ils étaient parmi des gens civilisés. Nous sommes braves et quelquefois terribles dans la bataille, mais après nous tendons une main fraternelle, secourable et humaine aux malheureux vaincus. Il expliqua ça en allemand à ses camarades, puis me dit « C'est qu'on nous avait dit que les Français massacraient souvent les prisonniers. » « Oui, les Francs d'autrefois, lui dis-je, mais pas les Français modernes. Si celui-là eût connu l'histoire de Napoléon Ier, notamment son expédition d'Égypte, il aurait pu me donner un démenti. » Je lui demandai ensuite s'ils étaient beaucoup d'hommes dans Mantoue. « Si, siamo molti, dit-il, mais il ne savait pas combien. » Le lendemain, le 5e corps devait aller occuper le centre de la ligne à Valeggio, en face de Villafranca, à 6 lieues de Vérone, avant Peschiera, derrière nous, où une garnison autrichienne était bloquée par l'armée piémontaise. Nous tenions alors l'armée autrichienne serrée de tous les côtés. À Venise, il y avait la marine et un autre corps d'armée prêts à débarquer. Ce fut à ce moment-là que Napoléon III choisit pour offrir la paix à François-Joseph, qui s'empressa de l'accepter, car il voyait bien que pour lui tout était perdu. Son armée était complètement démoralisée par tant de défaites successives. Cependant, le 7 juillet au soir, on nous annonça une grande bataille pour le lendemain. Toutes les troupes devaient partir à 3 heures du matin sans sac. Personne ne dormit cette nuit-là. Les uns passèrent la nuit à écrire des lettres ou leurs testaments, d'autres à boire et à chanter. Les officiers fraternisaient avec les soldats et promettaient à tous pour le lendemain des médailles et des croix. À 3 heures, nous étions en route, pleins de gaieté et d'entrain. Presque aussitôt sortis du camp, les voltigeurs furent lancés en tirailleurs en avant de la colonne, à travers les champs et les vergers. À notre vue, les habitants des villages et des fermes couraient épouvantés de tous côtés, abandonnant « alla grazia di Dio e della Santissima Madonna ». Des femmes et des enfants criaient et pleuraient. Nous marchions droit sur Villafranca, dont nous voyions le clocher reluire au soleil levant, et nous disions « voilà un clocher qui sera bientôt à nous ». Nous avions beau marcher, l'ennemi ne se montrait nulle part. Nous voyions bien sur la route de Vérone des voitures et des cavaliers courant à toute vitesse et soulevant des nuages de poussière. Tout à coup, on sonna la retraite. On nous fait entrer dans la colonne et on forme les faisceaux. Alors je vis bien qu'il n'y aurait rien. C'était une simple démonstration qui fut la dernière de cette glorieuse campagne, disaient les uns, de cette triste campagne, disaient les autres. Il est certain qu'elle n'avait pas atteint le résultat que les Italiens, confiants dans les promesses de Napoléon, en attendaient. Avant de quitter la France, il avait dit qu'il voulait l'Italie libre des Alpes à l'Adriatique. En entrant à Milan, il fit la même promesse, et il invita tous les Italiens à prendre les armes pour finir de chasser l'ennemi. « Volez, disait-il, sous les drapeaux de Victor Emmanuel, qui vous a déjà montré la voie de l'honneur. » Animés du feu sacré de la patrie, ne soyez aujourd'hui que soldats, demain vous serez citoyens libres d'un grand pays. Et tous les Italiens accouraient combattre sous le drapeau de l'indépendance pour chasser de toute la péninsule les maudits Tedeschi. Hélas, quelle ne fut pas leur déception, leur stupéfaction, en apprenant que Napoléon venait de s'arrêter tout à coup au milieu de sa marche triomphale, de traiter de la paix avec son confrère d'Autriche, et de régler le sort des populations italiennes contre les promesses qu'il avait faites de ne pas s'occuper de leur organisation intérieure. Quel grido di dolore parcourut toute l'Italie lorsqu'on apprit que la Vénétie resterait sous le joug.